Il est 7h, bon réveil à tous.
À la deuxième quinzaine du mois d'octobre, si nous ne prenons pas des mesures rapidement, nous atteindrons notre capacité totale de lits actuellement installés.
Les propos alarmistes d'Olivier Véran sur la situation en région PACA, un ministre de la Santé qui veut enrayer la propagation du virus avec des mesures plus sévères, mais surtout en appelant chacun à ses responsabilités. Mesures plus sévères à Lyon, notamment, les préfets vont présenter leurs propositions d'ici demain, ainsi qu'à Nice. Tenter de faire plier Bridgestone qui veut fermer son usine de Béthune, deux ministres font le déplacement lundi pour rencontrer élus et syndicats. Et si on changeait nos meubles, après avoir passé des semaines enfermés à la maison, vous êtes de plus en plus nombreux dans les magasins d'ameublement, dont certains connaissent des croissances à trois chiffres. C'est une enquête Europe 1. Et puis place aux journées du patrimoine à partir de demain. Il n'y a pas que les monuments qu'on peut visiter cette année. Une quarantaine d'exploitations de foie gras sont ouvertes aux visiteurs. On vous emmène dans le sud-ouest en avant-première.
La crise du Covid pousse la SNCF à réinventer son modèle. L'éclairage éco de Nicolas Barré, c'est à 7h15. Des tensions entre Américains et Chinois au sujet de Taïwan, le regard international de Vincent Hervouet. Le plaidoyer pour l'égalité des primes entre hommes et femmes chez les Bleus du foot, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin à 7h20, avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Olivier Véran n'y est pas allé par quatre chemins hier. Le ministre de la Santé a joué la carte de la dramatisation en rappelant que l'épidémie de Covid était déjà très active dans notre pays. Il a annoncé des centres de dépistage en renfort dans les grandes villes, dont 20 en Île-de-France, ou encore la commande de 5 millions de tests antigéniques beaucoup plus rapides.
Mais ce qu'on a surtout retenu, Victor Delande, c'est le ton du ministre de la Santé, le ton qu'il a employé pour nous expliquer la gravité de la situation.
Oui, il n'a pris aucune pincette. La situation n'est pas bonne du tout à Marseille, Bordeaux, et en Guadeloupe, mais il a rajouté sur la liste des inquiétudes Lyon et Nice, deux villes où Olivier Véran a demandé aux autorités locales de proposer d'ici demain des mesures concrètes pour endiguer l'épidémie. Et il anticipe même en donnant la liste noire des prochaines villes qui pourraient basculer, Lille, Toulouse, Rennes, Dijon et Paris. Pour marquer encore plus la gravité du moment, le ministre de la Santé s'est appuyé sur la région PACA, une région où il dessine un scénario catastrophe.
Fin septembre, il y aurait 300 patients atteints du coronavirus en réanimation, soit 60% des lits de réa actuellement installés. À la deuxième quinzaine du mois d'octobre, si nous ne prenons pas des mesures rapidement, nous atteindrons notre capacité totale de lits actuellement installé.
Mais ce scénario n'est pas inéluctable. Olivier Véran abat sa deuxième carte, celle de l'espoir qui repose sur tous les Français. Respect des gestes barrières, port du masque bien sûr. Il appelle aussi à une réduction des contacts. En clair, les Français doivent essayer de voir moins de monde. Une manière de renvoyer chacun à ses responsabilités.
Victor Delande, vous évoquiez l'exemple de Lyon qui attend de savoir quelles seront les nouvelles restrictions pour freiner le virus. Elles pourraient ressembler à celles qui ont déjà été mises en place à Marseille ou Bordeaux. Jean-Luc Boujon.
Ces nouvelles restrictions sont en cours d'élaboration à la préfecture, mais déjà les patrons de bars et de restaurants redoutent une fermeture à 23h de leurs établissements, comme Yann Borges, gérant du bar Le Sirius.
Aujourd'hui déjà on tourne à moins 50%, donc fermer à 23h c'est même pas la peine, parce que les gens arrivent à 19h pour l'apéro, à 23h on ferme, ça veut dire que 22h on arrête le service, on bosse pour 3-4h, et c'est pas du tout intéressant pour l'établissement, ça tue un petit peu la profession.
Autre crainte, l'annulation pure et simple des grands événements accueillant du public à l'image de ce qui s'est passé pour la foire de Marseille. Justement, celle de Lyon est programmé dans 3 semaines. Philippe Pasquier, responsable chez l'organisateur GL Events, assure qu'il est possible de la maintenir.
Nous disons au préfet que la foire de Lyon peut se tenir avec toutes les protections sanitaires voulues, puisque nous adoptons les éléments du référentiel de notre profession, auxquels nous rajoutons des équipes qui s'assurent que les publics adoptent bien les gestes barrières, et ça peut se passer très bien. Nous en avons eu la preuve sur les 6 salons que nous avons faits depuis le 1er septembre.
Les rassemblements de plus de 10 personnes sur l'espace public pourrait aussi être interdit, comme à Bordeaux. Hier soir, les groupes de 15, 20 ou 30 personnes étaient pourtant encore nombreux assis dans l'herbe sans masque sur les berges du Rhône. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et selon les informations du Parisien, le préfet de police de Paris va serrer la vis pour tous les bars qui ne respectent pas le protocole sanitaire, salles bondées, boîtes de nuit improvisées. Les sanctions vont tomber, y compris la fermeture administrative.
Ce qu'on retient aussi des annonces d'Olivier Véran hier, c'est l'allègement du protocole sanitaire pour les écoles. Un cas avéré n'entraîne plus systématiquement la fermeture de toute la classe.
Le ministre de la Santé demande même aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école en cas de symptômes bénins, comme le nez qui coule. Pour Hubert Salaune, qui dirige la Fédération de parents d'élèves, la PEP, le problème, c'est que les règles changent un peu trop vite.
Ben là, c'est une demande faite aux parents, mais en réalité, les parents sont plutôt des exécutants. Hein. Eux, ils sont toujours prêts à mettre leurs enfants à l'école, seulement c'est l'école qui leur disait de ne plus y aller. Alors si maintenant la règle est plus facile, tant mieux pour les parents, hein. Effectivement, ça évitera de se poser des questions. Tous les deux jours, on a une nouvelle annonce, hein. On a des changements au niveau du protocole, au niveau de la façon dont ça va être géré, donc c'est un peu déstabilisant pour les parents. Ils peuvent se dire aussi, mais alors la semaine prochaine, ce sera quoi la règle ?
Hubert Salone, le président de la PEP, au micro de Virginie Riva. Changement aussi pour les professionnels des crèches qui désormais doivent porter le masque en présence des enfants.
7h05 sur Europe 1, le gouvernement fait monter la pression sur le japonais Bridgestone qui veut fermer son usine de Béthune. Lundi, deux ministres feront le déplacement pour rencontrer élus et syndicats.
Elisabeth Borne pour le travail, Agnès Pannier-Runacher pour l'industrie. L'idée étant de sauver le site et le plus d'emplois possible. Lionel Gougelot a rencontré Francky, 28 ans d'ancienneté, toute une vie professionnelle et même personnelle dans cette usine.
Il a passé la cinquantaine, mais Francky se présente comme un enfant qui a grandi à l'ombre de l'usine Bridgestone.
Je suis rentré en 93 ici, mon père a travaillé ici. Pour nous, c'est une famille. Moi, j'ai connu que ça quasiment.
Et si l'on ferme mon usine, dit Francky, je ne saurais vraiment pas quoi faire.
J'ai travaillé un peu dans le bâtiment avant de partir au service militaire, mais c'est tout. Je ne sais rien faire d'autre. Non. C'est dur à dire, hein, mais je ne sais rien faire d'autre.
Il est hors de question que cette usine ferme. On fera tout, on se battra.
Hier, aux portes de l'usine, Francky a écouté les leaders syndicaux qui appelaient à la mobilisation.
L'emploi, c'est le plus important qu'il peut y avoir.
Je suis prêt à me battre, je suis prêt à tout faire. Hein. S'il faut faire des actions pour s'en sortir, je serai le premier à le faire avec les copains. Mais même si je souhaite de tout mon cœur qu'on s'en sorte et qu'on puisse continuer à nourrir nos familles tranquillement. Mais ça me paraît quand même difficile.
La véritable bataille que l'on doit mener, c'est de faire en sorte que cette entreprise continue de vivre.
Et même l'Union sacrée des politiques contre le géant japonais du pneu le laisse plutôt sceptique.
On m'a toujours dit quand les politiques entrent dans des sociétés comme ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que ça sent plus la fin que le début. Et malheureusement, on est plus sur la fin qu'au début, comme vous pouvez le voir.
Et ce week-end, Francky sera sur son poste à la fabrication de pneus en essayant de garder le moral malgré la peur de l'avenir. Béthune, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et hier, c'était la rentrée syndicale pour défendre les emplois et les salaires des défilés et des rassemblements étaient organisés dans 180 villes.
Passer des semaines entre ces quatre murs, ça finit par donner des idées. Faute de déménager, on a envie de changer de décor et ça se vérifie dans les magasins.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
Vous avez mené l'enquête pour Europe 1. Les spécialistes de l'ameublement se frottent les mains. Leur activité a grimpé de 20% par rapport à l'an dernier.
Et oui, les Français n'ont jamais été aussi mordus de déco, canapés, lampes, lits. Ils achètent de tout pour se sentir mieux chez eux, à l'image de Tania.
Je venais juste d'emménager dans un nouvel appartement, tout blanc. Donc à la sortie, j'avais qu'une hâte, c'est de mettre quelque chose sur les murs et de remplir un petit peu cet appartement.
Alors parmi les raisons de cette frénésie, il y a bien sûr le télétravail, voire pour certains, la crainte d'un éventuel reconfinement. L'enseigne Roche-Beaubois a ainsi constaté une hausse des ventes de 125% en juin. C'est le meilleur mois de juin de son histoire. Guillaume Demulier, patron de l'enseigne, était l'invité de la France Bougière.
C'est très marquant nos remontées de terrain, nos remontées de magasins, c'est-à-dire des clients depuis le déconfinement qui sont très qualifiés. Ils savent, ils ont étudié, ils ont pensé, ils ont eu du temps chez eux et ils sont prêts à acheter.
Et pour faire de la place à toutes ces trouvailles, les Français ont aussi beaucoup vendu. Charlotte Cadet est la fondatrice de Selency, un site de meubles de seconde main.
Le business plan a été un peu mis de côté au départ du confinement en se disant on va voir ce qui va se passer. On a été très surpris de voir que ça a repris très vite. Là, on est effectivement sur des mois records avec plus de 120-130% de croissance aussi par rapport à l'année dernière.
Une activité record donc. Certaines enseignes ont déjà compensé les pertes du confinement avec l'espoir invraisemblable il y a encore quelques mois de finir l'année dans le vert.
Merci Clément Le Saffre. Enquête que vous avez menée avec Charlotte Barrican. Si l'ameublement a le vent en poupe, les fleuristes ne sont pas à la fête selon les informations d'Europe 1. 2000 ont fermé leurs portes dans toute la France, soit 1 sur 7. On va y revenir dans le journal de 8h.
Un secteur également touché par la crise sanitaire, celui de la production de foie gras dans le sud-ouest. Alors, pour rebondir, il joue la carte du patrimoine.
Et oui, pour la première fois, une quarantaine d'exploitations ouvrent leurs portes au public à l'occasion des journées du patrimoine ce week-end. Ça a du sens, puisque notamment en Nouvelle-Aquitaine et dans les Landes, les canards font partie du patrimoine local. Visite en avant-première d'un élevage familial avec Stéphane Place dans le rôle du guide.
Un vaste lit de paille fraîche pour ces dizaines de canetons. Ce sera le point de départ de la visite demain dans cette exploitation familiale où de génération en génération, On élève des canards landais en liberté, nourris au maïs de la ferme, qui ouvre ses portes pour la première fois à l'occasion des journées du patrimoine, comme l'explique Emmanuel Dupouille.
On va commencer par une visite de la connotonnière. Il y aura des petits canards de 3 jours. Connaître tout ce qu'il y a sur les élevages, poser des questions. Le gavage que nous allons expliquer, montrer.
Le foie gras, on le goûte ou pas à l'occasion des journées du patrimoine?
Bien sûr que oui. Une dégustation gratuite. Aussi peut-être quelques aiguillettes, cœur de canard.
Enjeu pédagogique, enjeu économique aussi. Après 2 crises aviaires qui ont obligé les frères Dupouille à abattre la totalité de leur cheptel en 2015 et en 2016, rappelle Hervé.
Nous sommes restés sans produire. Les consommateurs se sont un peu détournés du produit. C'était au départ du magret. Maintenant, c'est le foie gras qui part un petit peu moins. Il ne faut pas oublier ensuite que nous avons eu le Covid. 60% de nos débouchés qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Ces journées du patrimoine s'inscrivent dans cette logique de retrouver du consommateur, de faire parler de nous.
Demain, les frères Dupouille attendent 100 de visiteurs sur leur exploitation. Castelnau-Tursan, Stéphane Place, Europe 1.
Quant à Emmanuel Macron, il sera dans le Gers aujourd'hui, pas pour découvrir un élevage de canards, mais pour visiter l'hôtel de Polignac à Condom, l'un des monuments en péril qui a bénéficié du premier loto du patrimoine. Et puis un mot de foot avec Saint-Étienne qui prend la tête de la Ligue 1 après sa victoire hier soir à Marseille 2-0 et Reims qui réussit son retour en Coupe d'Europe et se qualifie pour le 3e tour de l'Europa League face aux Servettes à Genève.
Merci Hélène Zélani, c'était le journal de 7h sur Europe 1, 7h11.